On a le grand bonheur de recevoir un monument du cinéma et du théâtre français, un acteur dont la voix chaude et grave a bercé nos écrans, nos scènes et même nos ondes radiophoniques. Il s'agit d'André Dussollier, trois fois césarisé, récompensé d'un Molière en 2015. Il est bien plus qu'un comédien, c'est un conteur d'histoire, un passeur de mémoire et aussi un artisan des mots. Quelques films marquants de votre parcours et de votre filmographie, André Dussollier, Trois hommes et un couffin, Un cœur en hiver, Mélo, on connaît la chanson. Sur les planches, je le disais. Alors aujourd'hui, vous êtes à l'affiche prochainement en 2026 de ce film que vous avez présenté ici à Liège, Chers parents, et notamment un rôle de père aux côtés de votre épouse Miu Miu. Vous allez nous en reparler. C'est une comédie mordante qui sera sur les écrans le 25 février 2026. Alors vous avez traversé les époques, André Dussollier. Qu'est-ce qui vous anime encore aujourd'hui? Venir ici à Liège avec cette nouvelle aventure radiophonique et le plaisir justement de rencontrer le public liégeois.
Oui, j'étais venu il y a 2 ans, j'avais rencontré Benoît Poulvorde, que j'aime beaucoup. Je suis d'ailleurs en train de tourner un film avec François Damiens, donc il y a des grands talents en Belgique. Et j'étais là le matin, comme ici, là maintenant, avec Benoît, et il me dit « Tu veux prendre un café ?» Je lui dis « Oui, je veux bien ». Alors il amène, il revient à table et il arrive avec 2 bières. J'ai dit, mais Benoît, j'ai besoin d'un café. Tu l'as ton café. Voilà, c'était donc, on reconnaît bien Benoît avec son ironie, etc. et son goût pour la bière, à laquelle je ne suis pas forcément habitué. Mais disons que le cinéma nous fait faire des rencontres et surtout nous balade d'un rôle à l'autre, d'une histoire à l'autre. Et c'est ça qui est vraiment plaisant. J'ai l'impression d'avoir, peut-être superficiellement, mais plusieurs vies que je peux jouer, partager avec mes partenaires, qu'il soit belge ou français ou autre, et c'est un plaisir toujours renouvelé, quoi. J'ai l'impression d'être toujours dans une perpétuelle découverte.
Alors, qu'est-ce qui vous a attiré vers le métier d'acteur, hein, depuis vos débuts? Qu'est-ce qui vous a conduit, voilà, vers les feux de la rampe?
Eh bien, écoutez, c'est très simple. Voilà, je vivais dans un petit village de 1000 habitants. Mes parents fonctionnaires étaient préoccupés par leur travail, souvent. Et moi, j'étais fils unique, j'allais à l'école. Je trouvais la vie un peu morne, un peu, comment dire, vraiment, c'était vraiment une avenue, une rue toute tracée. Il n'y avait pas vraiment de surprise, alors que la nature nous entourait, que vraiment il y avait plein de choses à découvrir. Donc je trouvais ça un peu ennuyeux. Et puis tout d'un coup, en allant au collège, un professeur de français, au lieu de nous faire apprendre Molière dans les livres, nous emmène au théâtre. J'avais 10 ans, j'étais en 6e, et là ça a été un coup de foudre, une découverte, et j'ai l'impression que c'est de la vraie vie où les acteurs pouvaient à la fois dire des choses très intéressantes, passionnantes, et puis vivre des émotions à découvert, comme ça, sans être montré du doigt, repris, dire des choses absolues qu'on ne disait pas à la maison. Tout ça m'a paru formidable, et en plus ce professeur de lettres de français donc nous montait des pièces. Donc j'ai vécu cette vie parallèle d'études d'un étudiant consciencieux, et puis jusqu'au bout du bout, parce que j'étais en province et que le métier de comédien professionnel on n'entendait pas vraiment parler, c'était vraiment lointain, tout ça se passait à Paris. Et puis j'ai continué à faire du théâtre depuis 10 ans jusqu'à mes 23 ans. Il y a 23 ans, j'ai franchi le pas. Au lieu d'être professeur, je ne me sentais aucune vocation pour ça. Je suis allé à Paris tenter l'aventure, et c'est pour la seule chose qui m'animait vraiment.
Est-ce qu'il y a une récompense qui vous a particulièrement, ou un rôle qui vous ont particulièrement marqué, et pour quelle raison?
Alors, le premier rôle qui m'a marqué, mais pour lequel je n'ai pas eu de récompense, mais c'était dans Mélo, d'Alain René. Et c'était une découverte à la fois du rôle, parce qu'il y avait vraiment plein de facettes dans ce rôle-là, l'émotion, la séduction, le plaisir. J'étais avec des partenaires que j'aimais beaucoup, Pierre Arditi, Sabine Azéma, avec que j'ai retrouvé souvent, Fanny Ardant aussi. Et puis surtout Alain René, qui était un autodidacte qui s'intéressait à tous les auteurs, et Mélo faisait partie de ces auteurs qu'on n'avait pas tellement le droit de jouer quand on était au conservatoire, parce que bon, je sais pas, il avait quelques casseroles qui traînaient derrière lui, ses contemporains n'aimaient pas beaucoup, et donc au conservatoire on nous recommandait pas de jouer du Bernstein, qui était donc l'auteur de Mélo. Et Mélo a été pour moi une découverte d'un rôle vraiment riche, et c'était la première fois. Et puis surtout surtout d'un travail avec un metteur en scène qui était plus qu'un metteur en scène pour moi, qui était un homme auquel je pense avec émotion et puis qui m'a toujours accompagné jusqu'à aujourd'hui.
Alors, à vous écouter, votre voix est très, très musicale. Elle est reconnaissable vraiment entre mille. Comment est-ce que vous travaillez cet instrument, j'ai envie de dire, puisque vous l'utilisez, et parfois aussi différemment, entre le théâtre, le cinéma et même la radio?
Alors, c'est bien que vous fassiez une allusion, que vous employiez le mot d'instrument, parce que j'ai joué une pièce de Baricco qui s'appelle Novecento. J'étais entouré, j'avais conçu le spectacle et j'avais imaginé vraiment que ça ne pouvait pas se raconter, cette histoire, sans la présence de musiciens. C'était un quatuor de jazz et mes musiciens, je découvrais, donc on échangeait la réplique, puis je racontais l'histoire et puis donc ils étaient là pour illustrer aussi à certains moments, pour ponctuer cette histoire de Novecento qui était passionnante. Et on parle souvent de la voix, mais la voix, c'est quelque chose qu'on travaille, qui évolue avec une personnalité. Chez tout un chacun, on peut voir que la voix n'est pas la même à 10, 15, 20 ans, 30 ans, etc. Ça évolue avec ce qu'on vit et ça témoigne de notre vie un peu, même si on peut deviner, je sais pas, tout ce qui a pu... Et mes copains musiciens me disaient, mais tu sais, la voix, c'est un peu comme un instrument. C'est-à-dire que toi, il n'y a pas seulement peut-être la tessiture de la voix, mais qui appartient à tout à chacun, mais il y a aussi la manière de dire les mots, la mélodie comme ça, la manière de jouer avec les mots, de raconter, de faire des phrases. Donc c'est vrai que c'est un instrument, mais j'ai pas forcément travaillé. Peut-être que le théâtre m'a obligé à travailler, parce que quand on joue pour 700 personnes ou 800 personnes dans une salle, ou peut-être même plus, ben il faut se faire entendre du dernier des spectateurs là tout au fond de la salle et donner l'impression quand même que tout ça se passe dans un salon commun, que ce soit vraiment très intime. Alors c'est, il y a à la fois il y a une sorte de travail comme ça qui se fait avec la voix, mais aussi toujours en conservant le naturel du personnage.
Alors, en ce moment, on peut vous entendre à la radio, sur une radio amie et néanmoins concurrente, voilà, où vous racontez les grandes périodes de l'histoire. Et voilà, il y a une dimension de narration, vous y prenez beaucoup de plaisir.
Oui, parce que Orson Welles se disait, la radio a ceci de supérieur au cinéma, c'est qu'à la radio, l'écran est plus large. Et c'est vrai qu'on imagine, moi j'ai découvert la télévision plus tard, à 13 ans, et donc j'écoutais beaucoup la radio avant, et quand j'écoutais, je sais pas, les retransmissions des étapes du Tour de France, j'imaginais les sprints, j'imaginais les choses, c'était vraiment très vivant. On est très actif quand on est auditeur, quoi. On imagine les gens qui parlent, et puis après on les découvre tout à fait différemment de ce qu'on avait imaginé. Enfin, la radio m'a toujours captivé, puis pour un comédien, c'est formidable, parce que c'est un lieu où on peut faire croire à une histoire, avec les silences, avec les mots, avec la mélodie, oui, aussi, qu'on emploie, ou qui est celle des phrases. Bon, voilà, c'est la radio, j'ai toujours été sensible, et c'est un exercice que j'aime bien, où on est tout nu avec sa voix, et où on peut faire croire à l'histoire qu'on raconte, et au personnage qu'on interprète.
Vous êtes venu présenter le film Chers parents. Vous incarnez un père, voilà, c'est un couple aux côtés de votre partenaire de jeu, c'est Miu Miu. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce rôle et dans ce personnage?
J'aime beaucoup la comédie, et quand Emmanuel Patron, l'auteur, avec sa sœur Armelle Patron, de cette pièce qui a eu un énorme succès, et qui l'a toujours d'ailleurs, qui continue à être représentée à Paris, mais ça fait 4 ans, et donc je suis allé voir la pièce, il m'a proposé de jouer au cinéma. Moi, j'avais beaucoup de respect pour les créateurs des personnages au théâtre, Bernard Allan pour le père et puis Frédéric Tirmont pour la mère, et je me disais, mais pourquoi ne le joue-t-il pas? Mais bon, ça c'est les arcanes l'industrie du cinéma qui font qu'on quelquefois on hérite d'un rôle comme ça, et qui était plaisant ce rôle parce qu'il est plein d'humour, léger, s'amuse des situations, et en même temps il a son mot à dire. C'est un ancien professeur aussi qui a voulu éduquer ses enfants d'une certaine façon, en les responsabilisant, leur donnant l'impression que bon, bah, c'était à eux de se battre et de faire les choses dans la vie pour eux-mêmes, pour leur propre compte. Et puis tout d'un coup arrive dans cette famille, c'est pas un drame, mais c'est au contraire une bonne nouvelle. Ils héritent comme ça d'une fortune grâce à la loterie nationale, et donc du coup c'est là que le que la bataille commence, parce que les enfants aimeraient bien avoir un petit quelque chose. Et puis voilà, là c'est là que le film commence, et on y voit toutes les réactions humaines, qu'on soit à l'intérieur d'une famille ou en dehors, c'est toujours un peu la même chose. Dès qu'il y a l'argent qui est au milieu de tout ça, ça peut créer des drames, mais ça peut aussi créer, comme grâce à Emmanuel Patron, qui a réalisé le film et qui a écrit aussi la pièce avec sa sœur, et bien Armel, et bien c'est vraiment le lieu de choses drôles, parce qu'on s'y reconnaît, quoi, évidemment.
Et il y a une dimension, je sais que vous y êtes sensible, de comédie italienne, voilà, hein, et la comédie italienne avec, je pense, aux grands maîtres Dino Rizzi, Mario Monicelli, etc. Voilà.
En effet, ça m'a fait penser à ces comédies italiennes dont vous parlez dans les années 70, où le drame était pas loin de la comédie et la comédie pas loin du drame. C'était vraiment sur une crête un peu ténue que les choses se passaient et se vivaient. On peut rire de tout. sauf de voilà, si on évite d'en pleurer, comme dirait le poète, mais voilà, c'est toujours un peu une crête très étroite sur laquelle on chevauche comme ça pendant tout le film. Et ça fait voir un peu les sentiments, la vérité des sentiments humains, même à l'intérieur d'une famille très unie. Et avec tous les dégâts que ça peut commettre ou provoquer, ou les réactions un peu inattendues qui viennent de loin, où chacun règle ses comptes avec l'autre. Et c'est ça qui est très plaisant, c'est que les auteurs se sont vraiment appuyés sur la vérité de la situation et des personnages.
Vous avez souvent évoqué votre amour pour la poésie. Est-ce qu'il y a un poème ou un auteur qui vous accompagne particulièrement, et pour quelle raison ?
Oh, il y en a beaucoup, beaucoup. En effet, j'ai fait un spectacle il n'y a pas tellement longtemps qui s'appelait « Sans dessus dessous », qui est un titre que j'ai emprunté à Raymond Devos, lui rend hommage. J'aime bien l'absurde, j'aime bien la drôlerie. Donc dans ce spectacle, il y avait plein de textes de toutes les époques, de tous les styles. Et je peux dire que vraiment... tout d'un coup, c'était agréable de faire ce spectacle sans dessus-dessous, où tous les auteurs se côtoyaient d'époques tout à fait différentes, que ce soit de Hugo, de Vos ou bien d'autres encore. Et donc, voilà, c'était quand il y a du talent, quand il y a de la qualité, je peux dire que j'aime tous les textes, les poèmes, les poésies. Je pense à un poème, par exemple, vous voyez, de Rimbaud, qui s'appelle « Le dormeur du Val ». Et quand on le relit, j'invite les auditeurs comme ça à le relire, c'est un sonnet, il n'est pas très long, mais c'est écrit par Rimbaud en 80, quelque chose comme ça. Mais c'était après la guerre de 70, et où il voyait un petit peu des choses dramatiques autour de lui, près de sa ville à Sedan, là-bas. Et il écrit ce poème, et c'est vraiment comme un travelling avant. Alors que le cinéma a été inventé en 1895 par les frères Lumière, et bien lui fait un peu, en écrivant la scène de ce soldat qui est loin comme ça, dont il a l'impression qu'il dort dans l'herbe, et puis la caméra s'approche, enfin lui, son regard s'approche, mais c'est comme si c'était une caméra, et on voit qu'il a, à la fin, c'est le dernier vers, il a deux trous rouges au côté droit. Et c'est vraiment étonnant de voir comment un poète comme Rimbaud peut décrire quelque chose qui est un peu, qui annonce aussi la manière dont le cinéma va exister, va nous permettre de voir les choses de près. Enfin voilà, les arts se mélangent quelquefois, et on peut, j'invite l'auditeur, c'est peut-être un peu abstrait ce que je raconte là, mais à relire le Dormeur du Val, parce que vraiment c'est amusant de voir la corrélation qu'il peut y avoir entre littérature et cinéma.
André Dussollier, est-ce que je peux vous demander ce mot de Victor Hugo?
Mon Dieu.
Parce qu'il c'est tellement extraordinaire et tellement d'une brûlante actualité dans les temps qui sont les nôtres. Est-ce que vous pourriez justement nous l'interpréter dans cet amour de la poésie qui est la vôtre?
Brave Jean, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdîtes tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs ou que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle, vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur. Ou si vous aimez mieux, vous murmurez, tout seul, croyant presque vous taire dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, court, à peine lâché, part, bondit, sort de l'antenne. Il est dehors, il connaît son chemin, il marche, il a deux pieds. un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes. Comme l'aigle, il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit les quais, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau dans la saison des crues. Et va tout à travers un dédale de rue, droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage. Il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive et railleur regardant. L'homme en face dit, me voilà, je sors de la bouche d'un tel. Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel. Victor Hugo, 1856. C'est moderne, hein ?
Très très moderne. Merci beaucoup André Dussolier pour cet échange. On rappelle cette actualité Chers parents hein, qui sortira en salle le 26 février 2026. Et puis on rappelle aussi bien évidemment vos grandes histoires radiophoniques. Allez, on peut le dire sur RTL, Radio Périphérique en ce moment. Hein, c'est de quand, hein, quand André Dussolier
c'est jusqu'à juin 2026 et plus si affinité. Je m'aperçois que les gens aiment bien découvrir des tas d'histoires qu'on croit connaître, comme ça qu'on a entendu, dont on a entendu parler, mais dont on ne connaît pas forcément tous les détails. Et c'est toujours savoureux de découvrir aussi ces histoires du passé ou récentes et qui nous parlent d'une actualité qu'on a découvert comme ça un peu rapidement par les informations, mais là qu'on a l'impression de scruter un peu plus en profondeur.
Voilà, radio, scène, grand écran, autant d'aventures passionnantes. Merci beaucoup pour ce moment de partage, André Dussolier.
Qui vous remercie, c'était une bonne façon de démarrer la journée. Je vous remercie, je suis très touché et très content. À chaque fois, il y a des très bonnes surprises à Liège. Donc voilà, à très bientôt, quoi.